Donc bonjour, très heureuse d'accueillir autant de lycéens, de collégiens, et Lecture Plurielle vous remercie et remercie aussi les enseignants qui sont des personnes engagées pour la littérature contemporaine. Merci à vous. Donc je vous présente Avril Bénard. Voilà, qui est à côté. Vous avez vu son visage un petit peu partout, je pense. Donc, Avril Bénard, qui a publié « À ceux qui ont tout perdu » aux éditions des Instants, qui est une littéraire, une collaboratrice à différentes revues, et qui a, je le dis parce que ça a de l'importance pour le roman, qui en même temps a été une égérie depuis l'âge de 5 ans d'une immense photographe qui s'appelle Sarah Moon. Voilà, donc c'est un visage qui est familier. Marie Rebourg, à côté, qui a publié donc Le bouclier de Marie aux éditions Philippe Ray, qui a eu un métier d'hydrogéologue, c'est ce qui est marqué en tout cas dans les fiches, et institutrice aussi, c'est ça, et qui maintenant vit en Haute-Savoie. La maison est peut-être finie d'être tapée. Non, parce que les notices bio disent, il y a presque 2 ans, retape une maison, donc je me dis, elle est peut-être terminée. Voilà. Donc toutes les deux, je vais présenter très très brièvement les romans. Je pense que l'essentiel des gens ici l'ont lu, les ont lus. Donc, Avril, je ne vais pas aller plus difficile pour présenter que la présentation qui est faite par une grande autrice qui s'appelle Sylvie Germain et qui a écrit un texte concis, un style sobre, comme est bref le temps du récit condensé en 1 heure et limité le lieu de l'action, concentré dans un immeuble. Tout se joue dans une abrupte trouée du temps, une trouée de stupeur et d'effroi, telle que les guerres en sèment, le basculement de la vie. Donc c'est la guerre, faire en 1 heure son bagage, ne prendre que le nécessaire. Marie, elle nous livre un texte autobiographique. La petite Marie a été violée à l'âge de 6 ans par un cousin aidé de ses frères, complices. Ce ne sera pas du tout un long récit sur le viol, mais surtout un témoignage reconnu comme étant crucial sur ce que l'on appelle le bouclier, ce qu'elle appelle, pardon, le bouclier, c'est-à-dire le système de défense qui s'est mis en place pour rendre la vie supportable pour Marie. Donc j'ai posé une première question. D'abord, quel est le chemin qui vous a mené l'une et l'autre à ces textes ? On commence par Marie ? Ou par Avril. Avril.
Le chemin, donc...
Est-ce que sur le bandeau du livre, il est écrit quelque chose ? Mais je ne sais pas si tu l'as choisi.
Oui, si, c'est quelque chose que j'ai dit. Donc j'assume ce bandeau, même s'il est peut-être un petit peu prétentieux. Moi, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est rendre compte des conséquences des agressions, parce que j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup des agressions en elles-mêmes, mais très peu des conséquences que ça peut avoir sur une vie dans les années qui suivent. Donc c'était ça qui m'intéressait. Mais je ne réponds pas vraiment à la question, là, j'ai l'impression. Le chemin, c'est qu'en fait, j'avais fait un premier essai d'écriture, c'était dans les années 2014-2015, qui n'avait pas abouti. Et à l'époque, quelqu'un m'avait dit que j'étais peut-être pas obligée d'écrire cette histoire, que c'était déjà bien d'y avoir survécu déjà. Et du coup, je m'étais dit, oui, j'allais mettre ça de côté et essayer d'avancer, de tourner la page, même si le livre n'était pas écrit. Et comme c'est un sujet qui revient dans l'actualité assez souvent, à chaque fois que ça revenait dans l'actualité, ça me renvoyait à mon histoire et au fait que j'en avais rien fait. Et ça me hantait en quelque sorte, il fallait absolument que j'en fasse quelque chose. Et donc, j'ai retenté d'écrire en 2021. Et cette fois-ci, je pense avoir trouvé la bonne forme pour raconter cette histoire. Et donc, ça aboutit à ce livre.
Assurément, puisque tu es là. Avril ?
Pour ce livre, il y a deux raisons dans le chemin. La première, c'est que pour moi, cette heure-là est très souvent éludée, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. Et je voulais qu'elle existe, en fait, qu'il y ait cet endroit-là, parce que c'est une heure invivable. C'est dans une guerre, mais ça peut être une guerre symbolique aussi, ou intime. Et quand elle est traitée comme un passage obligé. On fait un bagage et on s'en va. Et je voulais me rendre hommage, en fait, aux êtres qui ont cet endroit-là à vivre, de départ absolu et de perte absolue. Et la deuxième raison, dans l'intime, c'est que c'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qu'on emmène si on doit partir très vite ? Et que j'ai toujours pas la réponse, mais que c'est une question que je trouve intimement très vertigineuse, en fait. Et que c'était pas une tentative d'y répondre, parce que la réponse m'intéresse pas tant que ça, à part pour le message, en fait, du livre. Mais voilà, c'était... d'aller dans ce vertige-là, de qu'est-ce qui compte et pourquoi ça compte, en fait.
Donc ça, c'est ce qui est la justification dans le début du roman, l'introduction au roman, le jeu qui parle, c'est le jeu d'Avril. C'est parce que né aussi en 1986...
Il y a deux mois dans ce jeu, bien sûr. Après, il y a deux mois dans tous les personnages. Enfin, c'est toujours, finalement, là, en parlant entre auteurs... Il y a toujours du nous dans tous les personnages, finalement. Mais oui, il y a du jeu intime dedans. Pas nécessairement dans la candeur dont on parle. La candeur de ce personnage, c'est plus une dénonciation aussi d'un rapport que peut avoir l'Occident au reste du monde, de croire que si tout va bien ici, tout va bien partout, en fait. Ou qu'en tout cas, ce qui va mal ailleurs, c'est tellement loin que ça n'existe pas viscéralement. Ça, c'est pas moi, ça, c'est plus une critique. Mais il y a du moi dans ce personnage-là.
Et dans tous les personnages que l'on peut avoir, aussi bien Manon, des personnages essentiels, et Jeanne, Louis aussi, même le père qui est mort dès le début, on le comprend. Paul, Marek, Chorèche, Madame Dépal, une famille nombreuse, les cabanes, Guy, le SDF et son chien Totem, si ça dit un peu à tous. C'est vraiment un panel de vous
Oui, vraiment. Et puis de gens que je connais. Y a la grand-mère de Jeanne, la grand-mère de la petite fille, qui est morte avant, c'est ma mère. Donc, et j'ai deux chiens, et les chiens du livre, ce sont en grande partie mes chiens, ou des chiens que j'ai eus. Je pense vraiment qu'on est... on morcelle des choses et on transpose, et même toutes les douleurs et toute l'horreur qu'ils vivent, c'est des douleurs que moi j'ai eu à vivre de façon transposée après, parce que j'ai pas eu à vivre ce départ-là. Mais ce sont des douleurs qui sont les miennes à d'autres endroits et qui sont juste déplacées dans ce contexte-là et délayées dans ce contexte-là.
Donc c'est une situation de guerre, bien évidemment. Quelle guerre ? On ne le sait pas, c'est toutes
c'est
les
n'importe
guerres.
C'est ce que je dis dans le jeu, mais c'est n'importe quelle guerre, c'est la guerre. On me demande souvent, laquelle de la dater, mais ce n'est pas important, il y en a toujours une en cours, là on en parle beaucoup, 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 mais en fait, il y a toujours au moins une guerre en cours dans le monde, et on ne les nomme pas, et on les ignore, et puis il y en a qui prennent la tête d'affiche, quoi, malheureusement, mais c'est, il y a toujours une guerre, et donc c'est la guerre, l'horreur de la guerre. Donc, et après, ça peut être la guerre justement intime, encore une fois.
Qu'on retrouve. Donc, que faire dans l'urgence ? Quel est le tri d'une vie, d'un bilan de vie ?
Oui, Enfin, c'est plutôt qu'est-ce qui compte en fait et comment on résume dans cette urgence et parce que tous ces objets, il y a quelque chose d'identitaire dedans en fait. C'est que on a tous des choses auxquelles on tient. Qui nous rappelle, il y a cette expression qui on dit ramener un souvenir, mais donc en fait on ramène une pensée, on ramène quelque chose qui est purement dans la tête, mais qu'on va aller matérialiser. Et on a tous des choses auxquelles on tient pour des raisons soit de bonheur, mais parfois de malheur aussi. Je racontais là ce matin, mais par exemple j'ai le couvre-lit dans lequel est mort mon grand-père. Et il est rangé. Comme un linceul, je ne le touche jamais. Il est dans un endroit de mon appartement, voilà. Mais je peux pas m'en séparer. Et personne n'en voulait dans ma famille, enfin parce qu'il était trop chargé justement. Mais donc on a tous ces objets avec lesquels on vit qui comptent dans un espace de paix. Et d'ailleurs, je suis incapable de répondre à cette question aussi parce que c'est une question que je me pose dans un espace de paix et que quand j'essaye d'y répondre, c'est un sac de vacances, en fait. Alors que il y a que l'urgence qui serait capable de trancher sur ce qui vraiment est important, viscéralement. Et il y a que l'urgence qui saurait instinctivement où est la survie au-delà des objets de survie, vraiment, d'un couteau ou de quelque chose pour se couvrir, etc. Il n'y a que l'urgence qui saurait ce qui compte vraiment. Et après, le message de ce livre, c'est que de toute façon, ce n'est pas ça qui compte. Et que l'objet ne compte pas. Il est symbole de quelque chose, mais que ce qui compte, à mes yeux, c'est l'histoire et c'est comment on raconte les choses et de les raconter purement. Et donc, de ce qui est commun à l'humanité, c'est de faire histoire constamment, de raconter aux enfants, de raconter aux gens autour de soi, donc la mémoire, le souvenir, et que c'est ça qui est le plus important. Et la phrase d'exergue du livre de Thomas Wolfe qui dit « Peut-être faisait-il partie d'une famille humaine plus ancienne et plus simple, celle des bâtisseurs de mythes ?» C'est vraiment ça, en fait. On n'a fait que ça depuis le début de l'humanité, raconter des histoires, en faire des mythes, en faire des contes, en faire des choses qui... On ne sait même plus si c'est vrai. Enfin, ma fille me demande si les licornes ont existé. J'en sais rien, après tout. Enfin, qui le sait vraiment ? Enfin, tout ça, c'est... Il suffit d'une personne qui crée une chose autour de l'imaginaire et après, ça fait boule de neige et ça devient autre chose et puis ça devient parfois un mythe. Et parfois, ce sont de tout petits mythes, des mythes familiaux, des mythes intimes, quoi.
Alors, Marie, donc on a réabordé le thème, enfin le thème, la difficulté de vivre et de survivre après cette quasi-assassinat dont vous avez été victime. À quoi peut-on se raccrocher en même temps quand il arrive ce genre de choses ? Vous avez une famille, là, on peut dire les personnages de la famille. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Bon, personnage, bah j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'a soutenue au sens, dans tous les sens du terme. Ils m'ont cru et ils m'ont soutenue et ils se sont occupés de moi au moment où je tenais plus debout, en fait. Donc, oui, je me suis raccrochée à eux, mais je me suis aussi raccrochée à la beauté de la nature, à la beauté en général, à la poésie, aux feuilles des arbres. Enfin, voilà, il y a... Toujours, j'avais une amie qui m'avait dit qu'il fallait se raccrocher aux petites choses, aux petits détails beaux qu'on peut avoir dans une journée. Et ça peut paraître insignifiant quand on va bien, mais quand on va mal, ça peut sauver.
Et par rapport aux objets, si on peut parler plus précisément.
D'objets ? Moi, j'ai ma toupie, toujours.
Bah voilà. Alors, on peut en parler ?
De la toupie, oui, bah c'est un objet, bon pas celle-là en particulier, mais j'ai, depuis petite, j'ai toujours eu une toupie ou un caillou dans la poche. un petit objet qu'on peut triturer, qui peut aider à gérer le stress. Et c'est vrai qu'un objet qui tourne, ça marche particulièrement bien pour apaiser.
Cette toupie, elle accompagne tout le temps?
Non, quand je suis chez moi, elle est rangée, elle est posée sur un meuble, mais dès que je sors de chez moi, elle est dans ma poche, oui.
Voilà.
J'en ai une aussi. Enfin, pour la même, pour des raisons, enfin, oui, de stress aussi, d'aller focaliser à cet endroit-là, quoi. Et puis qu'il y a quelque chose qui continue d'avancer aussi. Enfin,
Oui.
À la symbolique de la toupie, ouais. Merci toutes les deux d'en parler comme ça. Donc on parle des symboles qui sont représentés sur les choses, on en a déjà parlé. Marie vient de parler en même temps de comment elle s'est accrochée à la poésie. On peut dire un petit peu plus, Marie ?
Sur la poésie ? Oui, alors moi déjà j'ai toujours eu plaisir à apprendre les poèmes que les instituteurs et les profs au collège nous demandaient d'apprendre par cœur. Je pense que ça vient aussi d'une facilité que j'avais à mémoriser. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai toujours eu une excellente mémoire, mais en même temps j'ai oublié le pire, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée au moment où les souvenirs me sont revenus. Parce que j'ai toujours été... Oui, on me disait toujours à Marie, elle se rappelle, elle est hypermnésique, elle se rappelle de tout. Alors qu'en fait, non, clairement. Mais donc, je pense que j'avais une facilité pour mémoriser des textes et j'avais plaisir à les réciter à haute voix. Et quand, adulte, j'ai été justement confrontée au retour des souvenirs, eh bien, assez naturellement, je me suis tournée vers les poèmes que j'avais appris petite et que j'ai commencé à me les réciter. Et puis comme ça ne suffisait pas, j'en ai rajouté, j'en apprenais un par jour pour chasser les souvenirs qui m'assaillaient comme ça à n'importe quel moment de la journée. Donc pour chasser la noirceur des souvenirs, je faisais rentrer dans ma tête des beaux textes. Et ça m'a aidée à tenir et à aller mieux.
Et les écrivains poètes préférés sont ceux qui sont dans le roman, entre Baudelaire ou Alfred de Vigny?
Oui, alors je n'ai pas parlé de Victor Hugo, mais évidemment il y a Victor Hugo. Mais c'est vrai que le poème que j'ai trouvé à l'époque, qui le plus puissant que je pouvais invoquer dans les moments les plus difficiles et qui fonctionnait bien pour m'aider à supporter ce qui m'arrivait, c'était la mort du loup d'Alfred de Vigny. Oui, mais depuis j'en ai découvert d'autres. Et c'est vrai que j'aurais pu...
Est-ce que tu peux dire un tout petit peu, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse La mort du loup. Pas forcément réciter La mort du loup, parce que ça, ce n'est pas possible. C'est très, très long.
Ça fait longtemps, oui.
Mais juste raconter ce qui se passe dans cette mort du loup.
C'est l'histoire d'une famille de loups qui est chassée, en fait. Donc ça commence... J'aime beaucoup le début, c'est les nuages couraient sur la lune enflammée. En plus, c'est en alexandrin. Moi qui suis toquée avec le nombre 12, un poème en alexandrin, si vous voulez, ça me met des paillettes dans la tête, quoi. C'est vraiment ce rythme-là par 12. Donc au début, il pose un décor avec donc, les nuages sur une lune en feu. Et il y a les chasseurs, ils cherchent les traces. Enfin, il y a une tension tout de suite. Ça finit très mal pour le loup, évidemment. Mais je ne sais pas, oui, ce qui s'est passé pour moi avec ce texte. Mais voilà, c'est l'histoire d'un loup qui est mis à mort par des hommes, quoi. Voilà. C'est pas très gai, oui.
Ah, on ne peut pas dire que les romans soient très, très gais non plus.
Oui, il y a des moments quand même où on sourit, où on rit, non, il me semble. J'ai essayé, en tout cas. Je ne voulais pas faire un livre trop sombre, trop plombant.
Oui. Et Baudelaire ?
Et Baudelaire, oui, Baudelaire, oui.
C'est pas le plus joyeux de tous non plus.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Et Avril, donc la poésie a aussi un rôle dans le...
Oui, enfin oui, elle a une place en fait dans le fait de montrer aussi par là qui ils sont et de les connaître à travers une façon poétique et d'avoir accès à ce qu'ils sont. Et j'ai pensé tous ces moments-là, en fait, justement dans les moments qui sont invivables, qui sont impossibles à traverser et qui vont faire trauma, de ce qui se passe dans le cerveau parfois, qui est le souvenir écran, et que pour être capable de supporter ce moment, le cerveau va aller focaliser sur un détail d'une couleur, d'un oiseau qui passe pendant un drame absolu. Et donc finalement, ces personnages, ils sont à cet endroit-là aussi de quelque chose qui est invivable. Et je vais délayer des toutes petites choses comme ça dans ce moment-là. Et dans leur appartement, dans leur passé, dans des choses comme ça qui comptent d'un seul coup beaucoup plus que ça ne compterait en temps normal. Par exemple, la mouche.
Paraît un peu sur le personnage de Marek,
oui,
le poète.
Bah lui, il est complètement sauvé par la littérature. Enfin, c'est en tant que exilé, qui n'a rien, qui n'a plus rien dans ce nouveau pays. Il n'y a que les livres qui comptent. Mais ça, c'est symbole. Là, c'est en tant qu'exilé polonais, mais ça s'applique à des blessés de la vie aussi, enfin, que c'est la littérature qui va sauver. Et donc, dans le livre, pour Marek, enfin, les auteurs qui sont cités, ce sont les miens, mes auteurs chéris, et principalement Giono, Claudel et Camus. Et que Giono m'a sauvé plusieurs fois, Camus tous les jours, et Claudel pour d'autres raisons, dans son rapport à la langue, au souffle.
Donc, Marie, hier, dans une autre rencontre avec des élèves, tu as dit une chose qui était très, très forte, que j'ai gardée. La poésie m'a souvent évité de passer de l'autre côté de la fenêtre. Donc
Une fois. Oui. Oui, je conseille à tous d'avoir un petit bout de texte à se réciter qui peut éviter dans certaines situations de faire une bêtise, quoi.
Ça sauve des vies et les histoires. Enfin, encore une fois, le fait qu'il y ait des histoires qui existent, enfin, ça sauve. Ça permet aussi de se sentir moins seul. Dans le rapport à comment on ressent le monde. Enfin, moi, Camus, ça me permet de me sentir moins seule dans mon rapport à l'altérité, par exemple. Enfin, j'ai été une grande timide très longtemps, et de façon un peu maladive, quoi. Et l'altérité, ça continue d'être un grand sujet. Je le gère juste différemment, mais de savoir que Camus avait une douleur à cet endroit m'a aidée un nombre incalculable de fois. Parce que on a accès d'un seul coup aux tripes de quelqu'un d'autre et qu'on sait pas ça quand on rencontre quelqu'un. Même en parlant intimement, c'est pas au même endroit, quoi. Donc
la littérature pour sauver les vies.
Oui, vraiment, moi je pense.
Ah oui.
Vous entendez ? Oui. La littérature sauve les vies. C'est tellement important. Je reviens un peu sur la manière d'écrire. Avril, donc j'ai dit que c'était important que vous soyez pas née sous l'œil d'un appareil photo, mais l'importance de la description.
Oui.
Ce qui est vraiment très très frappant dans le
oui je t'écris pas mal
dans l'ensemble du roman, et j'étais ancienne prof de mon côté très surprise que les plus jeunes aient adopté ce roman. Souvent ils disent oh là là, il y a trop de descriptions dans ce truc là et là c'était vraiment un exemple même de la description qui permettait d'accrocher.
Oui. Oui, quand ça devient photographique aussi, en fait. Mais c'est parce que, aussi, s'attachant aux objets, il faut les connaître comme des humains, en fait. Et un objet, ça peut, encore une fois, être très chargé. Alors, en fait, c'est chargé de l'aspect humain. Mon autre métier, c'est brocanteuse. Et ça veut dire aussi que je suis dépositaire d'une histoire dans les objets que je trouve et aussi de comprendre d'où ils venaient, à quoi ils servaient. Parfois, il y a de vraies énigmes. Parfois, je demande même à des gens, mon oncle qui était paysan, je lui demande, bon, ça, c'est un objet paysan, mais ça servait à quoi? Donc, lui-même fait une enquête dans le village en allant demander à des vieux paysans. Parfois, on trouve, parfois, on ne trouve pas. Mais donc, oui, cet aspect de description, c'est vraiment de donner à voir et de donner à voir leur lieu, ces choses qui comptent visuellement, parce que ça compte pour eux, donc c'est une manière de les connaître, en fait. Et je ne sais pas, il y a ce détail, par exemple, de la poussière dans la poche de... Oui. Jeanne, qui a la veste de son père et qui ne veut pas jeter la poussière qui est dans la poche parce qu'elle est, d'un seul coup, elle est sacrée parce que son père n'est plus là. Mais de la même manière, il m'arrive de chiner certains vêtements anciens, parfois de paysans, et qu'il y ait des grains de blé dans la poche. Je ne les jette pas, enfin, ils restent dans la poche parce que s'ils sont là, c'est de toute façon, il y avait une importance. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. On n'a rien dans les poches par hasard. Enfin, ça, c'est... Même un ticket de boutique, pourquoi il est dans cette poche, quoi. Donc oui, il y a vraiment... C'est une manière de les connaître autrement. Donc la description dans ce livre, elle était essentielle sur les couleurs, d'aller voir avec eux quelles sont toutes ces choses qui comptent, quoi.
Je pense par exemple à la petite fille au début qui veut embarquer son fauteuil.
Oui, oui. Oui, bah oui, ça c'est la deux mesures que tout est possible en fait. Elle a 5 ans, donc c'est un âge où il y a encore cette magie-là. Après, ça s'en va. Mais ma fille dit encore des choses de cet ordre-là, parce que le rapport au réel est très différent. Donc, un fauteuil, ça prend pas tant de place que ça, finalement. Dans cette logique.
C'est pas très pratique à faire entrer dans
non,
ça.
Non, mais c'est aussi
à part Mary Poppins.
Et c'est ça qui est terrible, c'est que Manon, sa maman, à ce moment-là, elle est justement dans ces temps où, en tant que parent, on est obligé de dire ça, c'est impossible. Et donc, c'est une claque, c'est des premières claques. Enfin, ça, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'est pas réalisable.
Je vais repasser un peu à Marie sur cette idée-là. Le bouclier, donc, tout le monde a compris que le bouclier s'est construit sur la petite fille et qui va continuer, il va exploser à quel moment? Pourquoi?
Il explose au moment où je cherche à comprendre pourquoi j'ai de plus en plus de troubles dans ma vie. Donc, je cherche, et à force d'insister, le bouclier finit par céder.
Peut-être expliquer un peu comment viennent ces troubles, s'il y en a qui n'ont pas lu le roman.
D'accord. Alors, déjà, quand le bouclier s'installe, donc quand l'amnésie traumatique se met en place, il y a des effets secondaires à cette protection de l'esprit. J'ai développé beaucoup de TOC. Donc, je comptais par série, je vérifiais par série de 12. Donc, je ne marchais pas sur les lignes, j'évitais tous les contacts. Donc, voilà, je me suis développée avec beaucoup de TOC comme ça, qui m'ont isolée, mais en grandissant et en devenant adulte, ça a été de plus en plus compliqué. J'ai eu des problèmes d'urticaire, je faisais des crises d'urticaire de façon régulière. Je faisais de la tachycardie, donc, voilà, je commençais à avoir de plus en plus de symptômes physiques, en fait, parce que les TOC, c'est des symptômes... ça reste mental, même si ça me retarde dans ma même journée, même si ça me contraint à éviter de passer sur un endroit avec du carrelage et de préférer... Bon, bref, là, ça commençait à toucher mon corps avec la peau, avec l'urticaire, avec le cœur qui s'emballe à n'importe quel moment. Enfin, ça devenait épuisant physiquement et mentalement, surtout que je ne comprenais pas d'où ça venait. Donc, j'ai commencé une thérapie pour essayer de trouver l'origine de ça. Voilà. Et c'est au cours d'une des séances... De thérapie, d'ailleurs j'allais dans le livre, cette séance, que les souvenirs ont commencé à revenir. Voilà. Mais je sais, j'ai su après que pour d'autres victimes d'amnésie comme ça, elles ne cherchaient pas forcément, hein, pour certaines, elles marchent dans la rue et paf, il y a un truc qui déclenche et ça revient. Moi c'est vrai que j'ai quand même beaucoup cherché, alors je ne sais pas, si je n'avais pas cherché, est-ce que ça me serait revenu quand même? Ça, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, moi, j'ai quand même fouillé, quoi. J'ai essayé de comprendre, oui.
Et ce bouclier, il parle à l'intérieur du roman?
Oui. Alors, il parle, je le fais parler dans le texte, mais c'est un artifice littéraire. Hein. Il ne parlait pas dans ma tête. Je n'avais pas conscience de sa présence. Moi, j'ai pris conscience de sa présence au moment où il a cédé, en fait. Parce qu'avant, je n'avais aucune... Comme il bloquait tout, j'avais aucun moyen d'accéder à ces souvenirs-là.
Est-ce que vous vous êtes lu, vous avez pris le temps ou eu le temps de lire vos romans respectifs?
Oui, moi j'ai lu ton livre. Oui.
Est-ce qu'il y a une question particulière?
Pas forcément une question, mais une remarque. C'est vrai qu'il est très visuel. Moi, j'avais l'impression d'être dans l'immeuble, de voir chaque appartement, de voir la cage d'escalier, de voir cette porte bleue. Enfin, c'était, j'avais l'impression d'y être vraiment, quoi. C'était très intense comme lecture. Ouais. Ouais.
Je ne l'ai pas encore lu.
Ça se fera après.
J'avais regardé son sujet.
Ça se fera après. Alors, Avril aussi, il y a toute la question de la femme qui est dedans, à l'intérieur de ce roman. Est-ce que peut...
La femme en général?
La
oui,
femme,
oui.
Pratiquement en général. Oui. Les personnages féminins, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus?
Oui, c'est elle qui porte réellement la force du livre, et principalement Manon et Jeanne. Manon, la maman, c'est presque celle qu'on connaît le moins bien. Pour moi, c'est... On la connaît comme un archétype, on a un peu accès à des choses de son passé, mais plus c'est vraiment la maman, mais la maman un peu, une maman rêvée en fait, une maman très très solide et qui est dans cette volonté de faire survivre son enfant, mais que c'est déjà plus elle qui compte en fait, et même dans le titre quand je dis Manon et Jeanne, c'est déjà la suite de l'histoire en fait, c'est la survie, l'enfant, et Jeanne c'est la petite fille, c'est l'héroïne, c'est parce que avec son enfance, de façon très instinctive justement, elle sait ce qui compte. Et que oui, elle va emmener le fauteuil, mais à la fois, c'est elle qui a la réponse à la fin de comment vivre tout ça. Et que ce qui va importer, c'est de rebâtir, c'est de réinventer. Et donc, c'est vraiment... Enfin, les hommes ont surtout des mauvais rôles, surtout Paul.
Oui, effectivement, la femme de Paul, par exemple. Paul, c'est vraiment un bonhomme...
Oui, bah la femme de Paul, c'est une femme soumise. Et puis c'est une autre génération. Enfin, c'est une femme soumise à cette méchanceté amère de son mari. D'ailleurs, c'est la seule qui n'est pas nommée. Enfin, on ne connaît pas son prénom. Mais là, à ce moment-là, elle va résister en sauvant ce petit chien. Donc toutes en fait elles ont une rébellion à ce moment-là et un instinct de continuer et d'aller plus loin, et même Suzanne la vieille dame d'une manière différente, enfin, elle il n'y a pas nécessairement de rébellion, mais il y a cette terreur de mourir tout seul, donc sa rébellion c'est de se lever, de sortir et d'aller dans les camions, mais c'est vraiment, il n'y a que des femmes qui portent vraiment une suite, et Marek. Mais Marek reste.
Ouais. Mais Suzanne, elle a un rapport aux objets aussi oui. tellement fort, avec un vase.
Oui, avec les tulipes.
Les tulipes.
Oui.
Et comment dans un moment aussi incroyable, qu'on espère de tout cœur ne jamais devoir vivre, comment on peut aller chiner un bouquet de tulipes ?
Parce qu'il n'y a que ça à faire, en fait. De la même manière que Marek, elle n'a rien d'autre que cet espace. Donc en fait, elle n'a rien à sauver. Elle est à la fin de sa vie. Elle sait qu'elle va mourir de toute façon dans les jours qui viendront. Enfin, c'est parce que elle est dans une vulnérabilité où il faut être accompagné de toute façon par quelqu'un qui veille pour survivre à ce genre de choses. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a plus que ça qui ait du sens, finalement, d'être justement, tu disais, la beauté qui sauve, mais d'être aussi dans la délectation de ce qu'il y a encore de beau. Quoi faire d'autre, de toute façon.
C'est un joli personnage qui fait penser à d'autres héroïnes de romans. Pomme, par exemple. Pomme, c'est dans... Le nom de. Qui était tourné aussi en film. Personne qui peut me sauver ? Pomme. La dentelière.
Ah, oui.
Donc, merci. Et c'est effectivement une personne qui rêve de l'amour et qui ne connaît pas l'amour et qui.
Qui n'est que dans la rêve.
Elle aurait souhaité que. Oui. Et jamais elle n'arrive. Oui. Elle vit complètement dans.
Oui, elle est dans la rêvasserie parce que son fiancé est parti, a tout brisé aussi à cet endroit-là en elle. Mais elle n'est que dans la rêvasserie en boucle. Et donc être devant cette tulipe, c'est une autre forme de rêvasserie. C'est juste qu'elle n'aime plus au même endroit. Enfin, c'est pas un homme, ce sont des fleurs.
Enfin, tous les personnages, il faudrait tellement de temps pour tous les aborder, tellement dans lequel est-ce que vous investissez davantage ? Nous, personnellement, j'ai adoré Marek.
Dans lequel je me reconnais
le plus. Le poète.
En fait, il y a deux endroits où je me reconnais particulièrement. Marek, pas parce que c'est moi réellement, mais parce que c'est le héros avec un immense H. Dans le sens où c'est l'inatteignable. Pour moi, c'est celui... D'ailleurs, il est dans la clôture du livre, mais c'est le héros. Quand on le referme, on se dit « j'aimerais être Marek. J'aimerais avoir ce courage-là, cette démesure d'être capable de dire « je pars pas » et de déclamer un poème à la fenêtre. Donc, je l'admire et je l'aime et je pense à lui. » Après, celle qui, dans laquelle je suis le plus, c'est la petite Jeanne. Parce que c'est moi, et c'est moi encore aujourd'hui, à certains endroits, justement de rapport aux objets magiques, un peu, d'aller les personnifier. Et même si je m'en détache d'une certaine manière, mais il y a quelque chose de l'enfance là-dedans qui m'est resté. Et qu'elle ramasse des trucs, et que je ramassais des trucs, et que ma fille maintenant ramasse des trucs. Et encore maintenant, je ramasse des trucs constamment.
Alors, puisqu'on parle un peu de clôture du livre, Marie, donc la clôture du livre se passe en Laponie. Oui. On peut dire, est-ce que c'est une vraie clôture ou pas vraiment une vraie clôture ? Dans le silence des aurores boréales, fraternité, ski, elle a 31 ans et le soleil se lève.
Oui, non, il fallait bien arrêter le récit à un moment donné. Ma vie, comme celle de beaucoup de gens, elle est faite de haut et de bas. J'ai décidé de d'arrêter le récit plutôt sur un haut. Sur un bas pour qu'il y ait une note d'espoir. Mais c'est vrai que cette histoire, c'est la mienne. Et même si le livre m'a permis quand même de la mettre à distance, je vis quand même avec. Enfin, ça continue. J'ai toujours des séquelles. Non, l'histoire ne s'arrête jamais, en fait. Tant que je suis vivante, l'histoire continue.
Et c'est pas si le soleil s'est pas levé toujours. Voilà.
Non, oui.
C'est ça que... Donc un livre, ça aide, ça met à distance, mais c'est pas un guérisseur non plus.
Non, non, non.
Je vais demander, souvent les élèves ont des tas de questions très pertinentes. En ont-ils ? Ils lisent leur liste, tant que ça arrive.
Ils ont des feuilles devant, là, non ? C'est quoi
ouais,
sur vos feuilles ?
Ouais, ils ont plein de feuilles.
C'est des questions, non ?
Il faut en profiter, parce qu'on n'a plus trop de temps.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Noémie, donc je suis au 3e au collège Henri Bordeaux. Et moi, je voudrais savoir ce qui vous a donné l'idée d'utiliser la métaphore du bouclier dans votre livre.
Alors, je cherchais un mot. Alors, comme le bouclier, donc, c'est un mécanisme de défense qui a lieu dans le cerveau d'une petite fille de 6 ans, je cherchais un mot qui soit déjà dans le vocabulaire d'une petite fille de 6 ans. Et un mot qui bloque, un mot qui protège. Et donc, le bouclier, ça m'est venu assez vite, mais je pensais qu'il n'allait pas convenir. Mais au début, je l'ai gardé comme ça en attendant mieux. Et en fait, il n'y a pas de meilleur mot qui est venu, donc j'ai gardé le bouclier comme ça. Mais voilà, je voulais un mot simple qu'une petite fille pouvait utiliser. Parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que la petite fille grandit, mais le bouclier qui parle, il s'exprime toujours comme... lui, il ne grandit pas. Il est là depuis dans la tête d'une petite fille de 6 ans. Et même si la petite fille grandit, elle acquiert plus de vocabulaire, lui, il reste avec des mots très simples. Et comme il se présente lui-même en disant « je suis dans sa tête, je suis son bouclier », je voulais un mot simple voilà, qui symbolise à la fois le blocage et la protection.
Alors ? Qui est partant ? Non ? Bonjour, je m'appelle Mariam et moi c'est une question pour les deux autrices. J'aimerais savoir, est-ce que vous aimeriez bien que votre livre soit adapté en film ? En pièce de théâtre ou autre ?
Oui, il va être adapté sûrement au théâtre, c'est en cours, par un ami, on ne s'était pas vu depuis des années, mais qui l'a lu et qui est un super metteur en scène et un super comédien, enfin, vraiment avec conscience de la langue, des mots très très fortes. Et en film, j'aimerais bien, c'est toujours une immense question justement l'adaptation et puis comment on transpose. Là, ça se pose déjà pour le théâtre parce que c'est encore une autre manière de transposer qu'au cinéma. Il faut même repenser la narration. On ne peut pas raconter cette heure-là en tableau. Il faut que ça s'entremêle. Donc au théâtre, là, c'est en chemin.
Oui, c'est difficile comme question. Moi, je serais curieuse de voir ce que d'autres pourraient en faire sous d'autres formes de ce texte. Mais en même temps, moi, j'ai toujours tendance à être déçue des adaptations. Enfin, quand j'ai lu le livre et que je vais voir un film, par exemple, je suis toujours déçue de. Je trouve toujours ça moins bien que le livre. Donc je sais pas, mais non, j'aurais quand même la curiosité de voir ce que d'autres pourraient en faire. Oui, oui, oui. J'aurais rien contre en tout cas, vraiment.
Ah, c'est un mot.
Une question là-bas.
Ça marche. C'était une question pour vous deux. Enfin, oui. Combien de temps vous avez consacré pour l'écriture de vos romans, du coup, c'est vous.
Alors moi, j'ai, on va dire un an à peu près. Au départ, moi, j'avais écrit que la première partie, qui m'avait pris à peu près trois ou quatre mois. Et les deux parties suivantes, oui. Mais avec les allers-retours, avec l'éditeur, les corrections, en tout, je dirais une année.
Moi, un an et demi à peu près, et je l'ai recommencé plusieurs fois parce que je me débattais avec la légitimité de parler de la guerre sans l'avoir connue. Je me débattais avec le fait de parler de cette guerre davantage au début du livre. Donc je l'ai après situé dans une évacuation nucléaire. Enfin, et jusqu'à ce que je m'autorise à le penser comme je voulais le penser et que ça pouvait n'être qu'une guerre parce que c'est le seul endroit d'extrême absolu qui bouche complètement l'horizon. C'est-à-dire qu'une évacuation, elle a lieu, mais on sait déjà qu'on va pouvoir rebâtir après, peut-être qu'on va même pouvoir rentrer chez soi, alors que la guerre, c'est fermé, en fait, tout ce qui peut se passer ensuite. Donc, un an et demi, parce que, voilà, recommencer, jeter tout le début, et puis le repenser.
C'est Avril qui fait un roman un peu d'anticipation, avec qui vient porter secours.
Oui, sur les Chinois, notamment. Le monde change, quoi. Puis je l'ai écrit avant le conflit en Ukraine et avant le conflit au Proche-Orient, on est dans un moment où tout tremble. Donc ça fait repenser aussi tout ce qu'on croyait établi, et aussi qu'on croyait qu'il n'y aurait plus jamais la guerre en Europe et qu'on avait tout compris. Enfin, on n'a rien compris. Et je ne suis pas sûre que ça arrive un jour. Et donc, les Chinois qui viennent nous sauver, c'est la bascule de quelle puissance économique a la possibilité de venir sauver d'autres gens. Et nous, on n'est même plus dans les puissances économiques ni militaires. Donc après, ça peut être n'importe qui vient aider. Et puis venir aider, c'est comme pour les soldats, on ne sait pas qui sont ces gens. Est-ce qu'ils viennent vraiment les aider ? Venir aider, c'est venir aider, mais c'est venir aussi conquérir parfois. Donc,
aussi tuer un chien.
Oui. Parce qu'il y a la machine de la guerre et que il y a beaucoup d'ordres auxquels il faut obéir. Et puis après, il y a ce que les êtres sont là-dedans et la désobéissance ou pas là-dedans. Et un chien, ça compte pas. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé, notamment à Tchernobyl. Les autorités ont menti à la population pendant 24 heures quand il y a eu la catastrophe, et donc ils ont dit que c'était qui gérait très bien, que c'était pas dangereux, etc. Donc la population n'a pas été évacuée et a été irradiée pendant une grande journée. Et ensuite, quand ils ont commencé à être évacués, on leur a dit, vous ne pouvez pas emmener les animaux parce qu'ils peuvent propager les irradiations. Et donc, il y a eu des exécutions d'animaux devant les cars, notamment des paysans qui voulaient emmener certaines de leurs bêtes, etc. Et aussi, là, par exemple, en Ukraine, il y a eu beaucoup de gens... j'ai regardé des gens qui ont sauvé justement leurs chiens, leurs chats. Et je me souviens qu'au tout début, il y a une femme qui, elle a marché pour atteindre la frontière avec son berger allemand très vieux sur son dos. Donc ça pèse, ça doit être proche de 20-25 kilos quand même, un berger allemand. Et elle l'a porté sur 17 kilomètres avec son chien sur le dos.
Mais j'étais saisie d'effroi et je pense que lorsque, en anticipation, le massacre qui a lieu par les snipers au moment de la livraison de la de l'alimentation.
Parce que c'est affreux, mais on est dans la cruauté absolue et l'un des meilleurs moments pour tuer plein de gens, c'est quand il y a un sauvetage. On est sûr qu'il y aura plein de gens à ce moment-là. Et donc, ces gens viennent manger, demander à manger, pas grand-chose. C'est un moment idéal pour commettre de l'horreur absolue, quoi.
Tout ça pour dire combien vos romans sont justes.
Merci.
Ils sont très différents, puisqu'il y en a un qui est une fiction. Mmh. On retrouve effectivement beaucoup l'autrice... La personne qui a écrit ça, et pour Marie, on ne peut pas mettre en doute, tout est vrai, tout est juste, parce que des romans sur, hélas, cet assassinat d'enfants, puisqu'on peut parler, je crois, de crimes et d'assassinats. Il y en a des romans. On parle beaucoup de. Mais et à chaque fois, au Festival du Premier Rang, on se dit oh, encore un roman sur ça. Et on fait, eh ben, ce roman sur ça, justement, il a accueilli tellement de suffrages en même temps. C'est-à-dire que c'est aussi dû à la qualité, à la vérité du récit et à la qualité du récit qui... Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ici ? Parce que, oui, ça y est, il y en a...
J'aurais aimé savoir, pour l'autrice du Bouclier de Marie, comment est-ce que l'écriture de votre livre a été une aide pour surmonter les épreuves auxquelles vous avez dû faire face tout au long de votre vie ?
J'ai raté un mot. A été...
Comment est-ce que l'écriture de votre livre a été une aide pour surmonter ?
Je ne crois pas que l'écriture m'a aidée, en fait. Parce que c'est vrai qu'on on entend souvent des auteurs qui disent que le fait d'avoir écrit, ça les a guéris, tout ça, tout ça. Moi, je n'ai pas du tout vécu ça. Il fallait que je fasse un travail sur moi suffisant. J'ai fait beaucoup de thérapie. D'ailleurs, je suis toujours en thérapie aujourd'hui. Donc, il fallait que j'aie un certain recul et il fallait que j'aille suffisamment mieux pour écrire. Mais ce n'est pas l'écriture qui m'a permis d'aller mieux. En fait, il fallait que j'aille bien pour pouvoir écrire cette histoire. Voilà. Mais maintenant que ce livre existe, oui, c'est quand même une aide pour moi. C'est-à-dire que j'ai plus honte de ce qui m'est arrivé. Je suis même plutôt fière de ce que j'en ai fait. Donc, le livre m'aide peut-être à assumer cette histoire, à la rendre peut-être encore plus réelle que quand elle était que dans ma tête ou dans ce que je disais. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que ça me procure une aide. Mais l'écriture en elle-même ne m'a pas aidée. Non, j'ai rien compris en écrivant. Il fallait que je comprenne avant de pouvoir écrire.
Autre question ?
Moi, j'avais une question pour les deux autrices. Quels ont été vos parcours en tant qu'écrivaine ?
Ok. Peut-être qu'un jour je serai écrivaine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me considère pas comme écrivaine. Moi, pour l'instant, je suis une victime qui a écrit. Donc mon parcours. Moi, au début, j'osais pas écrire parce que c'est vrai que j'ai un parcours. J'ai fait des études scientifiques, donc je me sentais pas légitime d'écrire. Mais quand j'étais en Laponie, en fait, j'ai tenu un blog pour tenir au courant mes proches de ce que je faisais, sans les submerger d'emails. Donc j'écrivais régulièrement dans un blog. Ça existe plus maintenant. Vous connaissez pas ce que c'est, un blog. Bon, bref, je donnais des nouvelles comme ça, en écrivant. Silence dans la salle. Et donc, c'est suite à ce blog qu'on m'a dit que je savais écrire et que ce serait peut-être bien que je me lance dans l'écriture de cette histoire. Donc voilà, j'ai été encouragée comme ça, mais moi, au début, je ne savais pas que j'en étais capable et que j'osais pas, en fait. Donc, il faut toujours oser... Voilà donc mon parcours.
Oui, je rejoins ce que tu dis. C'est, en plus, c'est le festival du premier roman, donc c'est le premier. Donc je ne sais pas si on peut. Il n'y a pas de parcours encore. C'est des balbutiements. Après, j'ai démarré de la même manière, en tenant une chronique. Et c'est aussi une époque où on peut donner. Peut-être qu'on donnait aussi des formes de brouillon qu'on n'aurait pas donné dans une autre époque, mais qu'on les donnait sur Internet, dans des choses qu'on écrivait et qui après étaient entendues et qui après donnaient une légitimité peut-être à se permettre de continuer à écrire.
On va peut-être en arrêter là. Je vois que ça s'agite un peu au bout d'une heure. Je vous souhaite un merci aux autrices, toutes les deux, d'avoir été généreuses. Merci.